Chapitre 26. Traité de Campo Formio en 1797. Arrivée du général Bonaparte à Paris. Le Directoire n'était point enclin à la paix, non qu'il voulût étendre la domination française au-delà du Rhin et des Alpes, mais parce qu'il croyait la guerre utile à la propagation du système républicain. Son plan était d'entourer la France d'une ceinture de républiques telle que celle de Hollande, de Suisse, de Piémont, de Lombardie, de Gênes. Partout, il établissait un directoire, deux conseils de députés, enfin une constitution semblable en tout à celle de France. C'est un des grands défauts des Français, résultat de leurs habitudes sociales, que de s'imiter les uns les autres et de vouloir qu'on les imite. Ils prennent les variétés naturelles dans la manière de penser de chaque homme ou même de chaque nation pour un esprit d'hostilité contre eux. Le général Bonaparte était assurément moins sérieux et moins sincère dans l'amour des idées républicaines que le Directoire, mais il avait beaucoup plus de sagesse dans l'appréciation des circonstances. Il pressentit que la paix allait devenir populaire en France, parce que les passions s'apaisaient et qu'on était là des sacrifices. En conséquence, il signa le traité de Campo Formio avec l'Autriche. Mais ce traité contenait la cession de la République de Venise, et l'on ne conçoit pas encore comment il parvint à déterminer ce directoire qui pourtant était, à certains égards, républicain, au plus grand attentat qu'on pût commettre d'après ses propres principes. À dater de cet acte, non moins arbitraire que le partage de la Pologne, il n'a plus existé dans le gouvernement de France aucun respect pour aucune doctrine politique, et le règne d'un homme a commencé quand celui des principes a fini. Le général Bonaparte se faisait remarquer par son caractère et son esprit autant que par ses victoires, et l'imagination des Français commençait à s'attacher vivement à lui. On citait ses proclamations aux républiques cisalpines et liguriennes. Dans l'une, on remarquait cette phrase « Vous étiez divisés et pliés par la tyrannie, vous n'étiez pas en état de conquérir la liberté. » Dans l'autre, « Les vraies conquêtes, les seules qui ne coûtent point de regrets, ce sont celles que l'on fait sur l'ignorance. » Il régnait un ton de modération et de noblesse dans son style qui faisait contraste avec l'âpreté révolutionnaire des chefs civils de la France. Le guerrier parlait alors en magistrat, tandis que les magistrats s'exprimaient avec la violence militaire. Le général Bonaparte n'avait point mis à exécution dans son armée les lois contre les émigrés. On disait qu'il aimait beaucoup sa femme, dont le caractère était plein de douceur. On assurait qu'il était sensible aux beautés d'Ossian. On se plaisait à lui croire toutes les facultés généreuses qui donnent un beau relief aux qualités extraordinaires. On était d'ailleurs si fatigué des oppresseurs empruntant le nom de la liberté et des opprimés regrettant l'arbitraire que l'admiration ne savait où se prendre. Et le général Bonaparte semblait réunir tout ce qui devait la captiver. C'est avec ce sentiment, du moins, que je le vis pour la première fois à Paris. Je ne trouvais pas de paroles pour lui répondre quand il vint à moi me dire qu'il avait cherché mon père à Copé et qu'il regrettait d'avoir passé en Suisse sans le voir. Mais lorsque je fus un peu remise du trouble de l'admiration, un sentiment de crainte très prononcé lui succéda. Bonaparte, alors, n'avait aucune puissance. On le croyait même assez menacé par les soupçons ombrageux du directoire. Ainsi, la crainte qu'il inspirait n'était causée que par le singulier effet de sa personne, sur presque tous ceux qui l'approchent. J'ai vu des hommes très dignes de respect. J'avais vu aussi des hommes féroces. Il n'y avait rien dans l'impression que Bonaparte produisit sur moi qui pût me rappeler ni les uns ni les autres. J'aperçus assez vite, dans les différentes occasions que j'eus de le rencontrer pendant son séjour à Paris, que son caractère ne pouvait être défini par les mots dont nous avons coutume de nous servir. Il n'était ni bon, ni violent, ni doux, ni cruel, à la façon des individus à nous connus. Un tel être, n'ayant point de pareil, ne pouvait ni ressentir, ni faire éprouver aucune sympathie. C'était plus ou moins qu'un homme. Sa tournure, son esprit, son langage sont empreints d'une nature étrangère. Avantage de plus pour subjuguer les Français, ainsi que nous l'avons dit ailleurs. Loin de me rassurer en voyant Bonaparte plus souvent, il m'intimidait toujours davantage. Je sentais confusément qu'aucune émotion du cœur ne pouvait agir sur lui. Il regarde une créature humaine comme un fait ou comme une chose, mais non comme un semblable. Il ne hait pas plus qu'il n'aime. Il n'y a que lui pour lui. Tout le reste des créatures sont des chiffres. La force de sa volonté consiste dans l'imperturbable calcul de son égoïsme. C'est un habile joueur d'échecs dont le genre humain est la partie adverse qu'il se propose de faire échec et mat. Ses succès tiennent autant aux qualités qui lui manquent qu'aux talents qu'il possède. Ni la pitié, ni l'attrait, ni la religion, ni l'attachement à une idée quelconque ne sauraient le détourner de sa direction principale. Il est pour son intérêt ce que le juste doit être pour la vertu. Si le but était bon, sa persévérance serait belle. Chaque fois que je l'entendais parler, j'étais frappé de sa supériorité. Elle n'avait pourtant aucun rapport avec celle des hommes instruits et cultivés par l'étude ou la société, tels que l'Angleterre et la France peuvent en offrir des exemples. Mais ses discours indiquaient le tact des circonstances, comme le chasseur à celui de sa proie. Quelquefois, il racontait les faits politiques et militaires de sa vie d'une façon très intéressante. Il avait même, dans les récits qui permettaient de la guetter, un peu de l'imagination italienne. Cependant, rien ne pouvait triompher de mon invincible éloignement pour ce que j'apercevais en lui. Je sentais dans son âme une épée froide et tranchante qui glaçait en blessant. Je sentais dans son esprit une ironie profonde à laquelle rien de grand ni de beau, pas même sa propre gloire, ne pouvait échapper, car il méprisait la nation dont il voulait les suffrages. Et nulle étincelle d'enthousiasme ne se mêlait à son besoin d'étonner l'espèce humaine. Ce fut dans l'intervalle entre le retour de Bonaparte et son départ pour l'Égypte, c'est-à-dire vers la fin de 1797, que je le vis plusieurs fois à Paris. Et jamais la difficulté de respirer que j'éprouvais en sa présence ne put se dissiper. J'étais un jour à table entre lui et l'abbé Seyès. Singulière situation si j'avais pu prévoir l'avenir. J'examinais avec attention la figure de Bonaparte, mais chaque fois qu'il découvrait en moi des regards observateurs, il avait l'air d'ôter à ses yeux toute expression, comme s'ils fussent devenus de marbre. Son visage était alors immobile, excepté un sourire vague qu'il plaçait sur ses lèvres, à tout hasard, pour dérouter quiconque voudrait observer les signes extérieurs de sa pensée. L'abbé Seyès, pendant le dîner, causa simplement et facilement, ainsi qu'il convient à un esprit de sa force. Il s'exprima sur mon père avec une estime sentie. « C'est le seul homme, dit-il, qui ait jamais réuni la plus parfaite précision dans les calculs d'un grand financier à l'imagination d'un poète. Cet éloge me plut parce qu'il était caractérisé. Le général Bonaparte, qui l'entendit, me dit aussi quelques mots obligeants sur mon père et sur moi. Mais en homme qui ne s'occupe guère des individus dont il ne peut tirer parti. Sa figure, alors maigre et pâle, était assez agréable. Depuis, il est engraissé, ce qui lui va très mal. Car on a besoin de croire un tel homme tourmenté par son caractère, pour tolérer un peu que ce caractère fasse tellement souffrir les autres. Comme sa stature est petite, et cependant sa taille fort longue, il était beaucoup mieux à cheval qu'à pied. En tout, c'est la guerre, et seulement la guerre qui lui sied. Sa manière d'être dans la société est gênée, sans timidité. Il a quelque chose de dédaigneux quand il se contient, et de vulgaire quand il se met à l'aise. Le dédain lui va mieux, aussi ne s'en fait-il pas faute. Par une vocation naturelle pour l'état de prince, il adressait déjà des questions insignifiantes à tous ceux qu'on lui présentait. Êtes-vous marié ? Demandait-il à l'un des convives. Combien avez-vous d'enfants ? Disait-il à l'autre. Depuis quand êtes-vous arrivé ? Quand partez-vous ? Et autres interrogations de ce genre, qui établissent la supériorité de celui qui les fait sur celui qui veut bien se laisser questionner ainsi. Il se plaisait déjà dans l'art d'embarrasser en disant des choses désagréables, art dont il s'est fait depuis un système, comme de toutes les manières de subjuguer les autres en les avilissant. Il avait pourtant à cette époque le désir de plaire, puisqu'il renfermait dans son esprit le projet de renverser le directoire et de se mettre à sa place. Mais malgré ce désir, on eût dit qu'à l'inverse du prophète, il maudissait involontairement, quoiqu'il eût l'intention de bénir. Je l'ai vu un jour s'approcher d'une Française très connue par sa beauté, son esprit et la vivacité de ses opinions. Il se plaça tout droit devant elle, comme le plus roide des généraux allemands, et lui dit « Madame, je n'aime pas que les femmes se mêlent de politique. » « Vous avez raison, général, » lui répondit-elle. « Mais dans un pays où on leur coupe la tête, il est naturel qu'elles aient envie de savoir pourquoi. » Bonaparte alors ne répliqua rien. C'est un homme que la résistance véritable apaise. Ceux qui ont souffert son despotisme doivent en être autant accusés que lui-même. Le directoire fit au général Bonaparte une réception solennelle qui, à plusieurs égards, doit être considérée comme une époque dans l'histoire de la Révolution. On choisit la cour du palais du Luxembourg pour cette cérémonie. Aucune salle n'aurait été assez vaste pour contenir la foule qu'elle attirait. Il y avait des spectateurs à toutes les fenêtres et sur tous les toits. Les 5 directeurs en costume romain étaient placés sur une estrade au fond de la cour, et près d'eux, les députés des 2 conseils, les tribunaux et l'Institut. Si ce spectacle avait eu lieu avant que la représentation nationale eût subi le joug du pouvoir militaire, le 18 Fructidor, on y aurait trouvé de la grandeur. Une belle musique jouait des airs patriotiques. Des drapeaux servaient de dais au directoire, et ces drapeaux rappelaient de grandes victoires. Bonaparte arriva, très simplement vêtu, suivi de ses aides de camp, tous d'une taille plus haute que la sienne, mais presque courbés par le respect qu'il lui témoignait. L'élite de la France, alors présente, couvrait le général victorieux d'applaudissements. Il était l'espoir de chacun. Républicains, royalistes, tous voyaient le présent et l'avenir dans l'appui de sa main puissante. Hélas, de tous les jeunes gens qui criaient alors « Vive Bonaparte !» combien son insatiable ambition en a-t-elle laissé vivre ? Monsieur de Talleyrand, en présentant Bonaparte au directoire, l'appela le libérateur de l'Italie et le pacificateur du continent. Il assura que le général Bonaparte détestait le luxe et l'éclat, misérable ambition des âmes communes, et qu'il aimait les poésies d'Ossian, surtout parce qu'elles détachent de la terre. La terre n'eût pas mieux demandé, je crois, que de le laisser se détacher d'elle. Enfin, Bonaparte parla lui-même avec une sorte de négligence affectée, comme s'il eût voulu faire comprendre qu'il aimait peu le régime sous lequel il était appelé à servir. Il dit que depuis 20 siècles, le royalisme et la féodalité avaient gouverné le monde et que la paix qu'il venait de conclure était l'ère du gouvernement républicain. Lorsque le bonheur des Français, ajouta-t-il, sera assis sur de meilleures lois organiques, l'Europe entière sera libre. Je ne sais s'il entendait, par les lois organiques de la liberté, l'établissement de son pouvoir absolu. Quoi qu'il en soit, Barras, alors son ami, et président du directoire, lui répondit, en le supposant de bonne foi, dans tout ce qu'il venait de dire. Il finit par le charger spécialement de conquérir l'Angleterre, mission un peu difficile. On chanta de toutes parts l'hymne que Chénier avait composé pour célébrer cette journée. En voici le premier couplet. Contemplez nos lauriers civiques. L'Italie a produit ses fertiles moissons. Cela croissait pour nous au milieu des glaçons. Voici ceux de Fleurus, ceux des plaines belgiques. Tous les fleuves surpris nous ont vus triomphants. Tous les jours nous furent prospères. que le front blanchi de nos pères soit couvert des lauriers cueillis par leurs enfants. Tu fus longtemps l'effroi, sois l'honneur de la terre, ô République des Français. Que le chant des plaisirs succède aux cris de guerre. La victoire a conquis la paix. Hélas, que sont-ils devenus ces jours de gloire et de paix dont la France se flattait il y a 20 années? Tous ses biens ont été dans la main d'un seul homme. Qu'en a-t-il fait? Chapitre 27. Préparatif du général Bonaparte pour aller en Égypte, son opinion sur l'invasion de la Suisse. Le général Bonaparte, à cette même époque, à la fin de 1797, sonda l'opinion publique relativement au directeur. Il vit qu'il n'était point aimé, mais qu'un sentiment républicain rendait encore impossible à un général de se mettre à la place des magistrats civils. Un soir, il parlait avec Barras de son ascendant sur les peuples italiens qui avaient voulu le faire duc de Milan et roi d'Italie. « Mais je ne pense, dit-il, à rien de semblable dans aucun pays. »« Vous faites bien de n'y pas songer en France, » répondit Barras, « car si le directoire vous envoyait demain au temple, il n'y aurait pas 4 personnes qui s'y opposassent. » Bonaparte était assis sur un canapé à côté de Barras. À ces paroles, il s'élança vers la cheminée, n'étant point maître de son irritation. Puis, reprenant cette espèce de calme apparent, dont les hommes les plus passionnés parmi les habitants du Midi sont capables, il déclara qu'il voulait être chargé d'une expédition militaire. Le directoire lui proposa la descente en Angleterre. Il alla visiter les côtes, et reconnaissant bientôt que cette expédition était insensée, il revint, décidé à tenter la conquête de l'Égypte. Bonaparte a toujours cherché à s'emparer de l'imagination des hommes. Et sous ce rapport, il sait bien comment il faut les gouverner quand on n'est pas né sur le trône. Une invasion en Afrique, la guerre portée dans un pays presque fabuleux, l'Égypte, devait agir sur tous les esprits. L'on pouvait aisément persuader aux Français qu'ils tireraient un grand avantage d'une telle colonie dans la Méditerranée et qu'elle leur offrirait un jour les moyens d'attaquer les établissements des Anglais dans l'Inde. Ces projets avaient de la grandeur et devait augmenter encore l'éclat du nom de Bonaparte. S'il était resté en France, le directoire aurait lancé contre lui, par tous les journaux dont il disposait, des calomnies sans nombre, et terni ses exploits dans l'imagination des oisifs. Bonaparte se serait trouvé réduit en poussière avant même que la foudre l'eût frappé. Il avait donc raison de vouloir se faire un personnage poétique, au lieu de rester exposé au commérage jacobin, qui, sous leur forme populaire, ne sont pas moins adroits que ceux des cours. Il n'y avait point d'argent pour transporter une armée en Égypte. Et ce que Bonaparte fit surtout de condamnable, ce fut d'exciter le directoire à l'invasion de la Suisse, afin de s'emparer du trésor de Berne, que 200 ans de sagesse et d'économie avaient amassé. La guerre avait pour prétexte la situation du pays de Vaud. Il n'est pas douteux que le pays de Vaud n'eût le droit de réclamer une existence indépendante, et qu'il ne fasse très bien maintenant de la conserver. Mais, si l'on a blâmé les émigrés de s'être réunis aux étrangers contre la France, le même principe ne doit-il pas s'appliquer aux Suisses qui invoquaient le terrible secours des Français? D'ailleurs, il ne s'agissait pas du pays de Vaud seul dans une guerre qui devait nécessairement compromettre l'indépendance de la Suisse entière. Cette cause me paraissait si sacrée que je ne croyais point encore alors tout à fait impossible d'engager Bonaparte à la défendre. Dans toutes les circonstances de ma vie, les erreurs que j'ai commises en politique sont venues de l'idée que les hommes étaient toujours remuables par la vérité, si elle leur était présentée avec force. Je restais près d'une heure tête à tête avec Bonaparte. Il écoute bien et patiemment, car il veut savoir si ce qu'on lui a dit pourrait l'éclairer sur ses propres affaires. Mais Démosthène et Cicéron réunis ne l'entraîneraient pas au moindre sacrifice de son intérêt personnel. Beaucoup de gens médiocres appellent cela de la raison. C'est de la raison du second ordre. il y en a une plus haute, mais qui ne se devine point par le calcul seulement. Le général Bonaparte, en causant avec moi sur la Suisse, m'objecta l'état du pays de Vaud comme un motif pour y faire entrer les troupes françaises. Il me dit que les habitants de ce pays étaient soumis aux aristocrates de Berne et que des hommes ne pouvaient pas, maintenant, exister sans droit politique. Je tempérai tant que je le pus cette ardeur républicaine en lui représentant que les Vaudois étaient parfaitement libres sous tous les rapports civils et que, quand la liberté existait de fait, il ne fallait pas, pour l'obtenir de droit, s'exposer au plus grand des malheurs, celui de voir les étrangers sur son territoire. L'amour-propre et l'imagination, reprit le général, font tenir à l'avantage de participer au gouvernement de son pays, et c'est une injustice que d'en exclure une portion des citoyens. Rien n'est plus vrai en principe, lui dis-je, général, mais il est également vrai que c'est par ses propres efforts qu'il faut obtenir la liberté, et non en appelant comme auxiliaire une puissance nécessairement dominante. Le mot « principe » a depuis paru très suspect au général Bonaparte. Mais alors il lui convenait de s'en servir, et il me l'objecta. J'insistai de nouveau sur le bonheur et la beauté de l'Helvétie, sur le repos dont elle jouissait depuis plusieurs siècles. « Oui, sans doute, » interrompit Bonaparte, « mais il faut aux hommes des droits politiques. » Oui, répéta-t-il, comme une chose apprise. Oui, des droits politiques. Échangeant de conversation, parce qu'il ne voulait plus rien entendre sur ce sujet, il me parla de son goût pour la retraite, pour la campagne, pour les beaux-arts, et se donna la peine de se montrer à moi sous des rapports analogues au genre d'imagination qu'il me supposait. Cette conversation me fit cependant concevoir l'agrément qu'on peut lui trouver quand il prend l'air bonhomme et parle comme d'une chose simple de lui-même et de ses projets. Cet art, le plus redoutable de tous, a captivé beaucoup de gens. À cette même époque, je revis encore quelquefois Bonaparte en société, et il me parut toujours profondément occupé des rapports qu'il voulait établir entre lui et les autres hommes, les tenant à distance, ou les rapprochant de lui, suivant qu'il croyait se les attacher plus sûrement. Quand il se trouvait avec les directeurs, surtout, il craignait d'avoir l'air d'un général sous les ordres de son gouvernement, et il essayait, tour à tour, dans ses manières, avec cette sorte de supérieur, la dignité ou la familiarité. Mais il manquait le ton vrai de l'une et de l'autre. C'est un homme qui ne saurait être naturel que dans le commandement. Chapitre 28. Invasion de la Suisse. La Suisse étant menacée d'une invasion prochaine, je quittai Paris au mois de janvier 1798 pour aller rejoindre mon père à Copé. Il était encore inscrit sur la liste des émigrés, et une loi positive condamnait à mort un émigré qui restait dans un pays occupé par les troupes françaises. Je fis l'impossible pour l'engager à quitter sa demeure. Il ne le voulut point. À mon âge, disait-il, il ne faut point errer sur la terre. Je crois que son motif secret était de ne pas s'éloigner du tombeau de ma mère. Il avait, à cet égard, une superstition de cœur qu'il n'aurait sacrifiée qu'à l'intérêt de sa famille, mais jamais au sien propre. Depuis 4 ans que la compagne de sa vie n'existait plus, il ne se passait presque pas un jour qu'il n'allât se promener près du monument où elle repose, et en partant, il aurait cru l'abandonner. Lorsque l'entrée des Français fut positivement annoncée, nous restâmes seuls, mon père et moi, dans le château de Copé, avec mes enfants, en bas âge. Le jour marqué pour la violation du territoire suisse, nos gens curieux descendirent au bas de l'avenue, et mon père et moi, qui attendions ensemble notre sort, nous nous plaçâmes sur un balcon, d'où l'on voyait le grand chemin par lequel les troupes devaient arriver. Quoique ce fût au milieu de l'hiver, le temps était superbe, les Alpes se réfléchissaient dans le lac, et le bruit de tambour troublait seul le calme de la Seine. Mon cœur battait cruellement par la crainte de ce qui pouvait menacer mon père. Je savais que le Directoire parlait de lui avec respect, mais je connaissais aussi l'empire des lois révolutionnaires sur ceux qui les avaient faites. Au moment où les troupes françaises passèrent la frontière de la Confédération helvétique, je vis un officier quitter sa troupe pour monter à notre château. Une frayeur mortelle me saisit, mais ce qu'il nous dit me rassura bientôt. Il était chargé par le Directoire d'offrir à mon père une sauvegarde. Cet officier, très connu depuis sous le titre de maréchal Suchet, se conduisit à merveille pour nous, et son état-major, qui l'amena le lendemain chez mon père, suivit son exemple. Il est impossible de ne pas trouver chez les Français, malgré les torts qu'on a pu avoir raison de leur reprocher, une facilité sociale qui fait vivre à l'aise avec eux. Néanmoins, cette armée, qui avait si bien défendu l'indépendance dans son pays, voulait conquérir la Suisse entière et pénétrer jusque dans les montagnes des petits cantons, où des hommes, simples, conservaient l'antique trésor de leurs vertus et de leurs usages. Sans doute Berne et d'autres villes de Suisse possédaient d'injustes privilèges, et de vieux préjugés se mêlaient à la démocratie des petits cantons. Mais était-ce par la force qu'on pouvait améliorer des pays accoutumés à ne reconnaître que l'action lente et progressive du temps? Les institutions politiques de la Suisse, il est vrai, se sont perfectionnées à plusieurs égards, et jusqu'à ces derniers temps, on aurait pu croire que la médiation même de Bonaparte avait éloigné quelques préjugés des cantons catholiques. Mais l'union et l'énergie patriotique ont beaucoup perdu depuis la Révolution. L'on s'est habitué à recourir aux étrangers, à prendre part aux passions politiques des autres nations, tandis que le seul intérêt de l'Helvétie, c'est d'être pacifique, indépendante et fière. On parlait en 1797 de la résistance que le canton de Berne et les petits cantons démocratiques voulaient opposer à l'invasion dont ils étaient menacés. Je fis des vœux alors contre les Français, pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie, j'éprouvais la douloureuse angoisse de blâmer mon propre pays assez pour souhaiter le triomphe de ceux qui le combattaient. Jadis, au moment de livrer la bataille de Granson, les Suisses se prosternèrent devant Dieu, et leurs ennemis crurent qu'ils allaient rendre les armes. Mais ils se relevèrent et furent vainqueurs. Les petits cantons en 1798, dans leur noble ignorance des choses de ce monde, envoyèrent leur contingent à Berne. Ces soldats religieux se mirent à genoux devant l'église, en arrivant sur la place publique. « Nous ne redoutons pas, disaient-ils, les armées de la France. Nous sommes 400, et si cela ne suffit pas, nous sommes prêts à faire marcher encore 400 autres de nos compagnons au secours de notre patrie. Qui ne serait touché de cette grande confiance en de si faibles moyens? Mais le temps des 300 Spartiates était passé, et le dévouement individuel luttait en vain contre les ressources d'un grand État et les combinaisons de la tactique. Le jour de la première bataille des Suisses contre les Français, quoique Copé soit à 30 lieues de Berne, nous entendions, dans le silence de la fin du jour, les coups de canon qui retentissaient, au loin, à travers les échos des montagnes. On osait à peine respirer pour mieux distinguer ce bruit funeste. Et quoique toutes les probabilités fussent pour l'armée française, on espérait encore un miracle en faveur de la justice. Mais le temps seul en est l'allié tout-puissant. Les troupes suisses furent vaincues en bataille rangée. Les habitants se défendirent toutefois très longtemps dans leurs montagnes. Les femmes et les enfants prirent les armes. Des prêtres furent massacrés au pied des autels. Mais, comme il y avait dans ce petit espace une volonté nationale, les Français furent obligés de transiger avec elle. Et jamais les petits cantons n'acceptèrent la République une et indivisible, présent métaphysique que le Directoire leur offrait à coups de canon. Il faut pourtant convenir qu'il y avait en Suisse un parti pour l'unité de la République, et que ce parti comptait des noms fort respectables. Jamais le Directoire n'a influé sur les affaires des nations étrangères sans s'appuyer sur une portion quelconque des hommes du pays. Mais ces hommes, quelque prononcés qu'ils fussent en faveur de la liberté, ont eu peine à maintenir leur popularité parce qu'ils s'étaient ralliés à la toute-puissance des Français. Lorsque le général Bonaparte fut à la tête de la France, il fit la guerre pour augmenter son empire, cela se conçoit. Mais, bien que le Directoire désirât aussi de s'emparer de la Suisse, comme d'une position militaire avantageuse, son principal but était d'étendre le système républicain en Europe. Or, comment pouvait-il se flatter d'y parvenir en contraignant l'opinion des peuples et surtout de ceux qui, comme les Suisses, avaient le droit de se croire les plus anciens amis de la liberté? La violence ne convient qu'au despotisme. Aussi s'est-elle enfin montrée sous son véritable nom, sous celui d'un chef militaire. Mais le Directoire y préluda par des mesures tyranniques. Ce fut encore par une suite de ces combinaisons, moitié abstraites et moitié positives, moitié révolutionnaires et moitié diplomates, que le Directoire voulut réunir Genève à la France. Il commit à cet égard une injustice d'autant plus révoltante qu'elle était en opposition avec tous les principes qu'il professait. On notait à un petit État libre son indépendance, malgré le vœu bien prononcé de ses habitants. On anéantissait complètement la valeur morale d'une république, berceau de la Réformation, et qui avait produit plus d'hommes distingués qu'aucune des plus grandes provinces de France. Enfin, le Parti démocratique faisait ce qu'il eût considéré comme un crime dans ses adversaires. En effet, que n'aurait-on pas dit des rois ou des aristocrates qui eussent voulu ôter à Genève son existence individuelle? Car les États aussi en ont une. Les Français retiraient-ils de cette acquisition ce qu'elle faisait perdre à la richesse de l'esprit humain en général? Et la fable de la poule aux œufs d'or ne peut-elle pas s'appliquer aux petits États indépendants que les grands sont jaloux de posséder? On détruit par la conquête les biens mêmes dont on désirait la possession. Mon père, par la réunion de Genève, se trouvait français légalement, lui qu'il avait toujours été par ses sentiments et par sa carrière. Il fallait donc qu'il obtînt sa radiation de la liste des émigrés pour vivre en sûreté dans la Suisse, alors occupée par les armées du Directoire. Il me remit, pour le porter à Paris, un mémoire, véritable chef-d'œuvre de dignité et de logique. Le Directoire, après l'avoir lu, fut unanime dans la résolution de rayer M. Necker. Et quoique cet acte fût de la justice la plus évidente, j'en conserverai toujours de la reconnaissance, tant j'en éprouvais de plaisir. Je traitais alors avec le Directoire pour le paiement des 2 millions que mon père avait laissés en dépôt au Trésor public. Le gouvernement reconnut la dette, mais il offrit de la payer en bien du clergé, et mon père s'y refusa. Non qu'il prétendît adopter ainsi la couleur de ceux qui considèrent la vente de ses biens comme illégitime, mais parce que, dans aucune circonstance, il n'avait voulu réunir ses opinions à ses intérêts afin qu'il ne pût exister le moindre doute sur sa parfaite impartialité. Chapitre 29 de la fin du Directoire. Après le coup funeste que la force militaire avait porté, le 18 Fructidor, à la considération des représentants du peuple, le Directoire se maintint encore, comme on vient de le voir, pendant près de 2 années, sans aucun changement extérieur dans son organisation. Mais le principe de vie qu'il avait animé n'existait plus, et l'on aurait pu dire de lui, comme du géant dans l'Arioste, qu'il combattait encore, oubliant qu'il était mort. Les élections, les délibérations des conseils, ne présentaient aucun intérêt, puisque les résultats en étaient toujours connus d'avance. Les persécutions qu'on faisait subir aux nobles et aux prêtres n'étaient plus même provoquées par la haine populaire. La guerre n'avait plus d'objet, puisque l'indépendance de la France et la limite du Rhin étaient assurées. Mais loin de rattacher l'Europe à la France, les directeurs commençaient déjà l'œuvre funeste que Napoléon a si cruellement terminée. Ils inspiraient aux nations autant d'aversion pour le gouvernement français que les princes seuls en avaient d'abord éprouvé. On proclama la République romaine du haut du Capitole, mais il n'y avait de républicains dans la Rome de nos jours que les statues, et c'était n'avoir aucune idée de la nature de l'enthousiasme que d'imaginer qu'en le contrefaisant, on le ferait naître. Le consentement libre des peuples peut seul donner aux institutions politiques une certaine beauté native et spontanée, une harmonie naturelle qui garantisse leur durée. Le monstrueux système du despotisme dans les moyens, sous prétexte de la liberté dans le but, ne créait que des gouvernements à ressort qu'il fallait remonter sans cesse et qui s'arrêtaient dès qu'on cessait de les faire marcher. On donnait des fêtes à Paris avec des costumes grecs et des chars antiques, mais rien n'était fondé dans les âmes et l'immoralité seule faisait des progrès de toutes parts, car l'opinion publique ne récompensait ni n'intimidait personne. Une révolution avait eu lieu dans l'intérieur du directoire comme dans l'intérieur d'un sérail, sans que la nation y prît la moindre part. Les nouveaux choix étaient tombés sur des hommes tellement vulgaires que la France, tout à fait lassée d'eux, appelait à grands cris un chef militaire, car elle ne voulait ni des Jacobins, dont le souvenir lui faisait horreur, ni de la contre-révolution que l'arrogance des émigrés rendait redoutable. Les avocats qu'on avait appelés dans l'année 1799 à la place de directeur n'y développaient que les ridicules de l'autorité, sans les talents et les vertus qui la rendent utile et respectable. C'était en effet une chose singulière que la facilité avec laquelle un directeur se donnait des airs de cour du soir au lendemain. Il faut que ce ne soit pas un rôle bien difficile. Goyer, Moulin, que sais-je, les plus inconnus des mortels, étaient-ils nommés directeurs. Le jour d'après, ils ne s'occupaient plus que d'eux-mêmes. Ils vous parlaient de leur santé, de leurs intérêts de famille, comme s'ils étaient devenus des personnages chers à tout le monde. Ils étaient entretenus dans cette illusion par des flatteurs de bonne ou mauvaise compagnie, mais qui faisaient enfin leur métier de courtisan, en montrant à leur prince une sollicitude touchante sur tout ce qui pouvait le regarder, à condition d'en obtenir une petite audience pour une requête particulière. Ceux de ces hommes qui avaient eu des reproches à se faire pendant le règne de la Terreur conservaient toujours, à ce sujet, une agitation remarquable. Prononciez-vous un mot qui pût se rapporter au souvenir qui les inquiétait, ils vous racontaient aussitôt leur histoire dans le plus grand détail et quittaient tout pour vous en parler des heures entières. Reveniez-vous à l'affaire dont vous vouliez les entretenir. Ils ne vous écoutaient plus. La vie de tout individu qui a commis un crime politique est toujours rattachée à ce crime, soit pour le justifier, soit pour le faire oublier à force de pouvoir. La nation, fatiguée de cette caste révolutionnaire, en était arrivée à ce période des crises politiques, où l'on croit trouver du repos par le pouvoir d'un seul. Ainsi Cromwell gouverna l'Angleterre en offrant aux hommes compromis par la Révolution l'abri de son despotisme. L'on ne peut nier à quelques égards la vérité de ce mot qu'a dit depuis Bonaparte. « J'ai trouvé la couronne de France par terre et je l'ai ramassée. » Mais c'était la nation française elle-même qu'il fallait relever. Les Russes et les Autrichiens avaient remporté de grandes victoires en Italie. Les partis se multipliaient à l'infini dans l'intérieur, et l'on entendait dans le gouvernement cette sorte de craquement qui précède la chute de l'édifice. On souhaita d'abord que le général Joubert se mît à la tête de l'État. Il préféra le commandement des troupes et se fit tuer noblement par l'ennemi, ne voulant pas survivre au revers des armées françaises. Les vœux de tous auraient désigné Moreau pour premier magistrat de la République. Et certainement, ses vertus l'en rendaient digne. Mais il ne se sentait peut-être pas assez d'habileté politique pour une telle situation. Et il aimait mieux s'exposer aux dangers qu'aux affaires. Parmi les autres généraux français, on n'en connaissait guère qui fussent propres à la carrière civile. Un seul, le général Bernadotte, réunissait, comme il l'a prouvé dans la suite, les qualités d'un homme d'État et d'un grand militaire. Mais le parti républicain était le seul qui le porta alors, et ce parti n'approuvait pas plus l'usurpation de la République que les royalistes n'approuvaient celle du trône. Bernadotte se borna donc, comme nous le rappellerons dans le chapitre suivant, à rétablir les armées pendant qu'il fut ministre de la guerre. Les scrupules, de quelque genre qu'ils pussent être, n'arrêtaient pas le général Bonaparte. Aussi, nous allons voir comment il s'est emparé des destinées de la France et de quelle manière il les a conduites. Fin du tome premier.